Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et ce n'est pas un hasard, croyez-moi. Il est 20h30, un peu passé, et nous avons une heure pour parler des bifins. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un bifin ? Eh bien, restez donc un peu avec nous, quelques minutes de plus. Zoom écologie, c'est parti.
Zoom écologie, tous les jeudis soirs, de 20h30 à 21h30. Sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3.
Bonjour, je suis Alexandre, on est sur Zoom Écologie. On va parler des bifins. Alors, je suis entouré de plein de gens aujourd'hui, c'est cool. Je vais vous présenter. Donc, on va parler des bifins. on est avec l'association Aurore qui s'occupe de ce problème des bifins. Qu'est-ce qu'un bifin déjà? Dans quel sens je travaille là? Parce que je crois que je vais partir dans tous les sens. Donc, je vais présenter déjà mes invités autour de la table. Je suis avec Pascal Chouatra de l'association Aurore, dont on verra qui s'occupe sur le terrain du problème des bifins, avec Nadine et avec Fouzia. Voilà. Donc ça, c'est mes trois invités de l'association Aurore. Nous aurons un invité musical en milieu d'émission, qui est Monsieur B. Vous verrez un artiste dynamique 100% gascon qui nous met tout de suite de la bonne humeur dans la station. Et je suis à côté d'une nouvelle collaboratrice qu'on accueille avec plaisir aujourd'hui sur cette antenne et sur cette émission. Donc on espère retrouver tous les mois, sauf si elle est dégoûtée aujourd'hui. Donc c'est Laurence qui est à mes côtés. Et je remercie mes deux collaboratrices qui sont enfermées dans la cage pour la technique. Comme d'habitude, Sophie qui nous fera une petite chronique tout à l'heure. On t'entendra, Sophie ?
Oui, bonjour.
Voilà, vous l'entendez du fin fond de sa cabine. Et Delphine qui nous revient de la Drôme directement pour filer un coup de main à Sophie qui commence à prendre toutes ses marques dans la cabine de pilotage de cette chaîne, et c'est très agréable. Donc Laurence, bonjour, ça va? Ça se passe bien? C'était début à la radio alors?
Oui, je suis ravie d'être avec vous ce soir.
D'accord. Alors on va commencer, c'est un peu le bizutage du jour, mais Laurence est une fine chroniqueuse, donc on lui a demandé de nous écrire une chronique, et tu vas nous parler de...
Je vais vous parler du Niger et du nucléaire.
Eh bien c'est parti, on t'écoute.
Donc pour cette première chronique transnationale, je vous propose d'aller faire un tour dans un pays dont on a beaucoup parlé ces temps derniers, le Niger. Pas pour gloser sur le terrorisme, enfin pas trop, ni revenir sur le coup d'État de l'année dernière, mais plutôt pour parler nucléaire. Quelques chiffres pour commencer. Constitué à 80% du Sahara et du Sahel, le Niger s'étend au sud de l'Algérie et de la Libye. Vous êtes peut-être allé randonner dans le Niger. Le désert, malheureusement, malgré les programmes de reforestation, gagne chaque année plus de 200 000 hectares. Et selon les Nations Unies, près de la moitié de la population est en situation d'insécurité alimentaire. Médecins Sans Frontières y intervient d'ailleurs pour lutter contre la malnutrition infantile et souligne une crise nutritionnelle récurrente. 85% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Et pourtant, le Niger est l'un des pays au monde à détenir dans son sous-sol les plus importantes réserves d'uranium. Petite devinette, qui est le premier employeur privé au Niger ? C'est Areva, l'entreprise française numéro...
Je le savais.
C'est donc Areva, l'entreprise numéro 1 mondiale du nucléaire civil, qui exploite 2 mines au nord-ouest du pays. Areva projette d'ailleurs d'ouvrir une troisième mine, ce qui amènerait le Niger au deuxième rang de la production mondiale d'uranium derrière le Canada. Bon, alors on se dit quand même, tout cet uranium, ça devrait rapporter plein de sous aux Nigériens. Cet uranium qui est indispensable au fonctionnement des centrales nucléaires françaises, indispensable à notre soi-disant indépendance énergétique. Or, depuis le 11 décembre dernier, plus de 200 000 litres de boue radioactive provenant de trois bassins fondus se sont déversés autour de la mine d'uranium à côté de la ville d'Arlit. Je dis ça parce qu'on a beaucoup parlé du Niger ces temps derniers, mais on n'a pas tellement parlé de cette fuite. D'après Greenpeace, qui a mis au jour ce problème, Areva n'a pas suffisamment agi pour protéger la population nigérienne. Je cite le communiqué. De son côté, la CRIRAD, qui est une commission de recherche et d'information indépendante sur le nucléaire, a aussi interpellé Areva et l'association Agirinman, également une association nigérienne, qui a demandé des prélèvements notamment sur l'eau. Puisque ces fuites, on peut les soupçonner de se répandre ensuite dans les nappes phréatiques. Déjà en mars 2010, Greenpeace avait accusé Areva de mettre en danger la santé des riverains des mines d'uranium. La gestion des résidus d'extraction s'effectue à même le sol jusqu'à former de véritables collines de déchets dépourvues de toute protection. Des déchets beaucoup plus dangereux que les déchets dont s'occupent les bifins à Paris, dont on parlera tout à l'heure. Donc depuis 40 ans, l'exploitation d'uranium nigérien a un coût pour les populations nigériennes. Destruction des modes de vie agro-pastoraux, pollution de l'air et des sols, pompage des nappes phréatiques. Alors moi, j'ai envie de nous interroger, nous, Françaises et Français. Nous avons profité de cette ressource pour développer notre industrie, pour nous chauffer, pour nous éclairer. Avons-nous vraiment payé le juste prix pour cet uranium? Il faudrait aussi nous interroger sur le prix que nous sommes prêts à payer pour cet approvisionnement et pour en assurer la sécurité. À cet instant, je pense très fort aux salariés d'Areva, retenus en otage depuis septembre dernier, et aux familles des deux ressortissants français kidnappés par une organisation terroriste et tués lors d'une intervention de l'armée française dans des conditions qui restent pour le moins obscures. Il serait très dangereux de faire des amalgames. Cependant, interrogeons-nous sérieusement sur la présence de la France au Niger et ses conséquences. S'interroger sur cette histoire de la France-Afrique qui n'a pas fini de s'écrire, on le voit toujours en Côte d'Ivoire, en Tunisie, la liste pourrait s'allonger. Mais revenons au Niger, un pays donc classé au dernier rang de l'indice de développement humain des Nations Unies. Peut-être que le coût environnemental et sociétal de l'exploitation des mines d'uranium devrait être répercuté sur nos factures d'électricité. Ça nous donnerait une bonne raison de plus pour sortir du nucléaire, faire des économies d'énergie et augmenter la production d'énergie renouvelable. Car le nucléaire, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire en ce moment, ce n'est pas la réponse énergétique pour lutter contre le changement climatique. Il faut le rappeler, je crois, alors qu'Areva s'apprête à diffuser une publicité qui fait polémique, puisqu'elle juxtapose centrales nucléaires, éolien et énergie solaire. L'association Sortir du nucléaire vient d'ailleurs de déposer une plainte devant l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Je cite le communiqué de l'association à propos de ce clip. Une hypocrisie gigantesque, alors que l'État, actionnaire principal d'Areva, s'acharne à tuer dans l'œuf les énergies d'avenir, classement des éoliennes parmi les installations polluantes, moratoire sur le rachat de l'électricité solaire. Bref, ce spot aurait coûté plus de 15 millions d'euros. Un spot payé en grande partie par les contribuables français. Alors, comme dirait ma grand-mère, mauvais pour la planète et mauvais pour le portefeuille. Voilà, rendez-vous le mois prochain, j'espère, s'il m'autorise à revenir, pour une chronique sur la mode éthique. Et d'ici là, n'abusez pas des soldes, achetez plutôt des vêtements en matière naturelle et bio, fabriqués par des salariés correctement rémunérés. Voilà, merci.
Merci Laurence. Bah, écoute, merci, si on reçoit plein d'appels incendieux de gens qui se plaignent de ta chronique, on te fera revenir sans problème le mois prochain. Parce que c'est quand même un peu l'esprit. Bon, on est là pour parler des bifins. Alors, est-ce que quelqu'un veut nous donner la définition du terme bifin, déjà pour expliquer ce que c'est qu'un bifin?
Donc un bifin, c'est quelqu'un qui, anciennement chiffonnier, donc aujourd'hui d'accord, un bifin, c'est quelqu'un qui va récupérer dans les poubelles ou ailleurs des objets issus de seconde main pour les revendre, les retaper ou les revendre en direct. Donc en gros, ce sont des gens qui récupèrent ce qu'on jette tous les jours. Pour
Et qui les revendent donc un peu à la sauvette dans les rues, sur les trottoirs.
Tout à fait, oui, c'est ça.
Donc c'est ces gens qu'on croise en marge des marchés aux puces de la Porte de Saint-Ouen ou de la Porte de Clignancourt, par exemple.
Voilà, et qui vendent. Alors soit c'est des choses qu'on leur donne, pour certains c'est aussi leur petit patrimoine. Donc on a aussi pas mal de personnes âgées qui revendent en fait des affaires parce que d'accord, aujourd'hui la situation fait qu'ils n'ont pas assez pour vivre tous les mois, donc ils revendent leurs chemises, leurs petits objets pour arrondir leur fin de mois. Voilà.
D'accord. Alors, le problème est effectivement assez, a l'air simple comme ça, mais il est devenu compliqué, parce que si j'ai bien compris, ces bifins sont heurtés à une hostilité un peu de leur environnement, les riverains notamment, une hostilité des commerçants également, qui se plaignent d'une concurrence déloyale ou des choses comme ça. Bon, bref, des cas un peu, disons, des situations un peu conflictuelles dans le quartier. Et du coup, ce qui a été, alors vous m'arrêtez si je me trompe, hein, mais dans le 18e arrondissement, la solution qui a été trouvée, c'est de définir un carré, on appelle ça le carré des bifins, de 100 emplacements, qui sont gérés par vous, donc l'association Aurore, et sur lequel donc vous vous autorisez ces gens deviennent entrent dans du coup dans la légalité pour revendre ces objets en échange de quoi qu'est-ce qu'ils offrent comme garantie du coup. Enfin, contre cette légalité, disons, en quoi ils. Comment je permets, excusez-moi. À quoi ils s'engagent pour obtenir ces emplacements par rapport à d'autres bifins, si vous voulez, en fait. C'est ça ma question.
Alors, par rapport à d'autres bifins, c'est-à-dire qu'effectivement, on est de toute manière limité. C'est-à-dire que sur ce quartier de la Porte Montmartre, il faut savoir qu'ils étaient effectivement 800 au départ. Aujourd'hui, la mairie a mis à disposition une centaine de places, donc la mairie du 18e. Et sur ces 100 places, tournent à peu près 230 bifins. Donc, effectivement, il a fallu faire une sélection.
Hein.
La sélection, elle était au départ géographique, puisque ce dispositif s'adressait à des bifins qui, historiquement, étaient là depuis des dizaines d'années.
D'accord, donc étaient connus, en fait.
Étaient connus, tout à fait. Et ensuite, vient aussi ce critère, alors évidemment, d'une condition économique et sociale qui fait que soit ils n'ont pas du tout de revenus, soit tellement bas que de toute manière, ils ont besoin de cette activité-là de bif. Et l'autre critère, effectivement, est que le bifin s'engage réellement à ne revendre que des produits issus de la récupération. Donc c'est son engagement à lui, en tout cas, c'est de respecter cette règle qui est de la récupération et pas tout autre chose, parce qu'il peut aussi se produire un marché qui serait d'acheter moins cher, enfin d'acheter pas trop cher ailleurs et de le revendre un petit peu plus cher sur le carré des bifins.
Oui, donc j'ai entendu, par exemple, pas de produits neufs, pas de médicaments, pas de produits alimentaires. C'est ça, en fait, les trois critères.
Il y a
d'autres choses où... C'est ça, là.
Pas d'alcool,
d'accord. Bon, ça rentre dans les produits.
Pas de produits neufs, non. Ouais.
Pas de produits neufs pour éviter les vols.
Pas de cosmétiques, produits d'hygiène.
Pas de produits à caractère pornographique.
Pas de produits non plus à caractère pornographique, ouais. Puis pas d'encombrants, surtout pas d'encombrants, parce qu'ils sont limités quand même, ils ont un espace d'un mètre 50 sur 1m80. Donc, pas de meubles, évidemment, quoi. Donc,
d'accord. Laurence, tu veux intervenir?
Rappeler que les bifins, en fait, c'était une activité à Paris jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Hein. Ça faisait partie des petits métiers de Paris. Des gens
dans le
qui,
patrimoine parisien, c'est ça
ouais,
que tu veux dire.
En fait, il propose un véritable service environnemental, en fait, hein, puisqu'il valorise des déchets, des choses qu'on va mettre à la poubelle. Et ça faisait partie jusqu'au 19e siècle, hein, jusqu'au préfet poubelle, je crois, des métiers parisiens tout à fait reconnus.
D'accord.
J'ai l'impression.
Jusqu'aux épidémies du choléra qui a obligé les pouvoirs publics à faire des lois pour empêcher les gens de fouiller dans les poubelles. Donc voilà.
D'accord.
Les épidémies de choléra, effectivement, on a, on va dire.
Donc ces gens qui sont donc autorisés, vous les avez, vous les recrutez entre guillemets, c'est-à-dire vous avez une liste du coup de ces gens.
Oui.
Et vous les suivez également, c'est-à-dire qu'il y a un programme qui leur est proposé ou qui leur est imposé de réinsertion sociale, on peut appeler ça comme ça.
Ouais,
alors comment ça se passe au quotidien? Alors c'est quoi?
Alors c'est plus une proposition, c'est-à-dire qu'au départ, avant l'ouverture de ce carré, il y a une enquête qui a été faite sur qui sont ces bifins.
Voilà,
on s'est aperçu que c'était des personnes effectivement dans une grande précarité économique et sociale, en rupture de droits, qui avaient décidé de se débrouiller par eux-mêmes, quoi, qui avaient qui un peu démissionnaires des institutions.
Et on a plutôt affaire à des gens jeunes, des étrangers, c'est quoi laquelle la population en fait?
Alors effectivement, plutôt des étrangers.
C'est moyen... quoi être un étranger? Excusez-moi, mais...
Alors, c'est vrai, quand je dis étranger, on a quand même pas mal de personnes qui sont de Roumanie, qui viennent de Roumanie.
D'accord.
On a pas mal aussi de Chibani, alors qui sont aujourd'hui français. Enfin, tous n'ont pas leurs papiers. On a, comme on dit, des Gaulois, donc des Français, très peu.
D'accord.
Et puis...
vous les appelez Gaulois?
Voilà.
D'accord.
Les appelle. Tout le monde s'appelle comme ça. C'est-à-dire, il y a les Noirs, les Roms, les Chibani et les Gaulois. Voilà. On est tous dans ce saladier-là.
Il y a aussi des personnes d'origine africaine.
Oui, et d'origine africaine.
D'accord. Et cette association Aurore, elle a été créée à ce moment-là pour ça ou elle a une existence historique?
Non. Donc là,
vous me regardez toutes avec des grands yeux.
Donc l'association Aurore, elle a plus d'un siècle, un siècle et demi. 1871.
Pardon.
Depuis 1871, il y a environ 800 salariés. C'est 70 services.
Combien t'as dit salariés, excuse-moi?
800 salariés.
D'accord.
Ouais.
Okay. Oui, d'accord, je comprends les, plus les grands yeux.
C'est une des plus grosses associations sociales, en fait, hein, en Île-de-France, qui interviennent sur plein de secteurs.
Voilà. Avec trois pôles. Voilà, insérer, héberger, soigner.
Voilà, y compris des expérimentations, par exemple, sur
les sens de la synthèse.
Ouais, des sens de l'hébergement innovant, par exemple. Mm-hmm. Voilà, c'est une association qui intervient vraiment de manière très efficace.
Mais c'est vrai que ce projet, je pense, a pu être possible, en tout cas, parce qu'effectivement, Aurore a déjà un certain crédit.
D'accord.
Voilà, auprès. Auprès des autres institutions, et c'était pas évident comme pari.
Enfin, c'est quand même. Donc, c'est une autorisation qui a été donnée par la mairie du 18e sur ces emplacements-là qui sont sous le pont de l'avenue de Montmartre.
Voilà.
18e, c'est ça.
Voilà.
Donc.
La mairie du 18e et le département de Paris. Quoi.
D'accord. Et pour l'instant, c'est une expérience unique, en fait, non?
Alors, c'est une expérience unique. Elle a commencé le 16 octobre 2009 à caractère expérimental, et on n'a aucun repère dans le sens où ça s'est jamais fait. Donc, il a fallu vraiment mettre en place. Tout inventer. Alors avec cette double mission qui est d'organiser cet espace de vente, de le réguler, de l'encadrer, et la deuxième mission qui est effectivement de répondre sur, évidemment, demande ou proposition de notre part, à un accompagnement social pour ces personnes. Donc on mène cette double mission, et pour ça, on a un bus café social où on accueille les personnes, où ils viennent prendre leur emplacement à la journée. Donc le bus est garé juste à côté du marché.
Oui, je l'ai vu.
Et là, on a aussi cette... autre mission, enfin disons que ça s'imbrique, c'est-à-dire d'être aussi un lieu d'accueil, un lieu d'échange informel autour d'un café, autour de...
D'accord.
Donc parfois on accueille des gens qui ne sont ni vendeurs ni quoi que ce soit, un peu perdus dans le quartier, qui peuvent même pas s'inscrire dans le marché, qui voilà, enfin je repense à ce monsieur là qu'on voit depuis peu, qui est un monsieur clochard, quoi, hein, qui a trouvé un repère sur le carré des Biffins comme une petite famille, et donc il vient là. Donc
D'accord.
On est un peu un lieu repère pour.
Alors vous parliez du.
Ah oui.
Vous parliez du marché. Enfin, tout à l'heure, on parlait des choses qu'on n'avait pas le droit de vendre sur ce marché. Mais qu'est-ce qu'on a le droit de vendre? Qu'est-ce qu'on trouve si on va se balader sur ce carré des Biffins?
Qu'est-ce qu'on trouve? Des chiffons, des bibelots, des livres, des bijoux anciens. Enfin.
Oui, pas mal, un peu d'électro. Moi, j'y suis allé donc dimanche dernier parce qu'il y avait un événement, il y avait un concert. Pourquoi d'ailleurs il y avait un concert ce jour-là? Je ne sais pas. Un concert de soutien. Donc
c'était pas juste pour préciser, c'était pas un concert de soutien, c'était le tournage du clip de la dernière chanson de Guillaume Toussol, qui a été très actif dans le soutien aux Biffins avec les riverains pour obtenir ses places. Et il a écrit sa deuxième chanson qui s'appelle Les 100 places, S-A-N-S.
D'accord.
Et pour le tournage de ce clip, en fait, ils ont créé un événement. Donc, ils voulaient que ça soit fait, effectivement, non loin du carré des Biffins.
Oui, sur place.
Et l'idée, c'était de mobiliser aussi la commune de Saint-Ouen pour qu'elle aussi propose des emplacements, hein, puisqu'on prend beaucoup de gens qui habitent Saint-Ouen. Donc c'était le tournage d'un clip et à la fois une mobilisation, avec des interviews un peu comme ça, d'élus et autres. Et c'était un moment très très chouette où justement on retrouve notre militantisme associatif et à la fois
festif.
Ouais, non, et voilà.
Mais pour répondre à la question, Laurence, oui, voilà, donc surtout des chaussures, des habits, des produits électroniques aussi usagés.
Des cocottes minutes.
J'ai acheté des piles. Alors j'ai honte de le dire parce que les piles que j'ai achetées devaient être neuves quand même, mais j'ai quand même acheté des piles pour faire marcher mon enregistreur qui a finalement pas marché.
Et les clients, vous avez une idée un petit peu du profil des clients qui viennent dans ce carré des Biffins? Et il y a d'autres marchés des Biffins, vous en parlerez certainement tout à l'heure, qui ne sont pas encadrés ce carré des Biffins. Parce qu'on parle du profil des vendeurs, mais c'est intéressant aussi de se dire qui sont les personnes qui n'ont pas, peut-être pas les moyens d'aller ailleurs.
Au regard de, pour ma part, ce que j'ai pu observer, les clients, ce sont quand même des personnes qui aussi sont dans l'exclusion et dans la marginalité. Ça, c'est clair. C'est effectivement, ce n'est pas les clients qu'on trouve même à Darty ou dans des magasins pour des discounts, quoi. Voilà. C'est pas Darty, c'est pas là aux chaussures, c'est absolument pas la même clientèle.
Ouais, j'ai lu.
Alors, il arrive aussi que de temps en temps, puisque derrière il y a un hôtel qui s'appelle l'hôtel Étape, il peut y avoir des touristes qui vont dormir à l'hôtel étape. Alors ceci dit, c'est quand même les gens qui vont dormir à l'hôtel étape, c'est pas des touristes qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent passer un moment sous le pont et effectivement acheter. Mais quand même, majoritairement, au regard de ce que moi j'ai observé, c'est quand même des personnes qui aussi sont dans l'exclusion.
Oui, oui, c'est, mais j'ai lu cette expression. Je sais pas ce que mes collègues en pensent. Des pauvres, mais dans c'est l'article. Voilà, voilà. Je sais pas si ça vous fait sauter de. Si ça vous fait hurler cette expression, mais. Que ce soit un marché des pauvres, en fait.
Non, je pense pas. À la fois les vendeurs et les acheteurs. Cette philosophie de d'acheter ou de contribuer à leur manière à développer plutôt un commerce solidaire, donc à plutôt donner l'argent. Enfin, moi, c'est ce que je fais d'ailleurs. Je ne peux pas acheter sur le carré des biffins proprement dit, mais j'essaye de privilégier en tout cas. C'est... Non, on n'a pas le droit, c'est une éthique professionnelle. Donc, mais je pense que c'est une philosophie aussi de vie. Je ne pense pas qu'il y ait seulement des personnes en grande précarité. Je pense qu'il y a des gens aussi qui se disent, bon ben voilà, j'ai tout intérêt à donner 5 euros pour acheter un jean à quelqu'un qui a une petite retraite ou... qui n'a pas du tout de, comment dire, de revenus, que d'aller donner, que de donner 50 euros.
Oui, à participer
euros
au recyclage voilà, d'un objet. Oui,
mais bon. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens de...
Oui, ça peut, voilà. C'est possible. Après, est-ce que dans la réalité, c'est vraiment comme ça? C'est-à-dire qu'est-ce que les vendeurs sont conscients de cette mission-là, finalement, de recyclage des objets? Et c'est oui, plutôt de leur survie, quand même, pour eux, objectivement. Voilà,
Et justement, on voit une... Enfin, je ne sais pas si vous le percevez sur le terrain, mais on a l'impression aussi que, du coup, ces biffins qui appartenaient à l'histoire de Paris, ils avaient disparu à Paris. Et depuis quelques années, avec les crises sociales que l'on connaît, ils reviennent en force. C'est une façon aussi de s'apercevoir que de plus en plus de gens, à Paris notamment, sont laissés au bord du chemin.
Alors, ces gens, donc, ils viennent s'inscrire à la journée, tu as dit tout à l'heure, Pascal.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est des gens qui ne reviennent pas forcément tous les jours. Est-ce qu'ils se bagarrent le matin pour s'inscrire ou est-ce
si
que...
tu veux, donc, lorsqu'ils correspondent aux critères que je disais plus haut, ils ont une carte à l'année et ils ont plus ou moins de jours de vente, donc samedi, dimanche ou lundi.
D'accord.
En fonction de leur situation, c'est-à-dire plus ils en ont besoin et plus ils ont de jours de vente. Et quand il y a quand même quelques revenus, on propose un jour de vente. Donc là, ils ont une carte à l'année, mais ils viennent ou ils ne viennent pas. Et il y a quand même quelque chose d'assez commun chez les biffins, c'est qu'ils sont très irréguliers dans leur présence parce que ils savent pas s'ils vont trouver la veille dans les poubelles quelque chose d'intéressant. Parce que voilà, donc ils ont comme ça quelque chose de très très irrégulier dans leur venue. Ce qui fait que tous les jours, en fait, on a ces biffins adhérents qui viennent jusqu'à 9h30. Et ensuite, on a un nombre de places à redistribuer. D'accord. Puisque ce serait complètement dingue de laisser ces places vides. Et ces places, on les redistribue à des gens qui n'ont pas eu de carte, soit par choix, soit par... voilà. Et donc, on a un système de place à la journée. Et c'est là qu'on voit finalement la population encore plus précaire que celle des biffins, quoi. Donc, c'est des gens qui, soit par peur, n'ont pas voulu être encartés, on va dire.
Ouais, ouais.
Voilà, enfin, il y a...
Donc, les contacts que vous avez avec eux, en fait, c'est au moment où ils demandent cette carte, et puis le matin, quand ils viennent s'inscrire. Et après, est-ce qu'ils sont resollicités dans la journée? En fait, ils viennent à demande dans ce bus quand ils ont envie de prendre un café ou discuter, c'est ça?
J'ai pas... Nous, ce qui était important, c'était que les gens viennent dans le bus s'inscrire. Parce qu'après, on a inventé du début à la fin la chose. Donc,
on s'est dit,
est-ce qu'on distribue les places sur le marché, comme ça se fait? C'est-à-dire, le placier sur un marché aux puces, il va distribuer les places sur le lieu. Et on s'est dit, non, c'est symbolique et je pense important de les accueillir, qu'on prenne le temps dans le bus de savoir déjà où ils veulent se mettre, parce qu'ils ont le choix. Hein.
D'accord.
Donc on les accueille là, c'est là où on se dit bonjour, on propose un café, voilà. Ensuite, ils repartent avec leur place et tout au long de la journée, ils peuvent ou venir boire un café ou solliciter Nadine pour des questions sociales ou administratives, venir discuter. Et nous, par ailleurs, on va aussi évidemment sur le marché faire notre tour, donc on se revoit aussi sur le lieu de marché. Et à la fin du marché, donc à 17h30, ils viennent rendre... leur bâche, et là on a soit des grands sourires parce qu'il y a un petit peu d'argent qui est rentré, ou soit des têtes complètement défaites parce qu'ils ont gagné.
La majorité,
rien du tout,
c'est quoi? Ça les aide quand même.
Mais c'est indispensable. Enfin, je veux dire, c'est on est complètement engorgé par les demandes, donc c'est... Enfin, s'il fallait faire une liste d'attente, ce serait, je sais pas moi, si on compte Montreuil et sa fermeture, si on compte Belleville, c'est 4000 personnes devant le bus, quoi.
Oui.
En nécessité, quoi.
D'accord.
Et ouais. Une des grandes questions aujourd'hui, c'est pourquoi il n'y a pas d'autres carrés des bifins ? Parce que votre expérimentation, elle a l'air de bien marcher, mais là, peut-être que je vais trop vite. Est-ce que vous avez une idée du revenu moyen par jour pour une personne ? Ça doit être très difficile à évaluer.
Ça dépend de la marchandise. Voilà. Autant quelqu'un peut vendre un portable qu'il a retrouvé à 5-10 euros, autant on peut vendre une chemise à 1 euro. Donc voilà, ça dépend de la marchandise qu'on a.
Oui, c'est quand même des tarifs. Enfin, c'est vraiment des tarifs dérisoires quand même. Vous expliquez que c'est même assez différent des puces qui sont à 100 mètres. Les puces, c'est déjà pas très cher, mais là, on est encore un niveau en dessous. C'est vraiment.
Ils font un peu la tête quand ils ont gagné, on va dire entre 7 et 8 euros. Là, ils sont pas très contents parce qu'en général, c'est le fruit de 11 heures de travail pour 7-8 euros. Et ça arrive régulièrement. Là, ils sont pas très contents. Après, à partir de 20 euros, je crois que ça. Ils considèrent que c'est quand même pas mal, quoi. Bon, c'est 11 heures de travail, 11 heures de... Enfin, c'est du travail dans le froid, dans la rue, avec tout ce que ça implique aussi, de la surveillance de ces produits et autres. Hein. Mais voilà, ouais, on est quand même dans quelques euros, quoi.
Et on m'a raconté qu'il s'est produit auparavant des situations où la police qui voulait chasser ces bifins, en fait, saisissait les produits et ces produits étaient ensuite broyés, mis à la benne, en fait. Hein. On voit bien l'absurdité aussi de ce genre de comportement, puisque ce sont des produits qui doivent être recyclés, qui peuvent être valorisés. Et ces bifins, encore une fois, ils rendent un vrai service environnemental dans notre société de gaspillage aussi. Ils arrivent à trouver des choses fort intéressantes. Et peut-être qu'il faudrait s'interroger aussi sur une manière de mieux rétribuer ces services rendus. Puisque là, c'est une approche de l'économie informelle rendue un peu plus formelle via le carré des bifins. Mais je crois qu'on a intérêt à s'interroger là-dessus.
Alors moi, je me posais une question.
Attendez, j'ai une question de Sophie.
Excusez-moi, dans mon bocal, j'ai une petite question. De temps en temps, je me dis, est-ce qu'on s'interroge pas sur la provenance des objets ?
La question de Sophie qu'on n'entend pas à nous, sauf ce qu'on a le cas, c'est la provenance des objets.
Alors, la provenance des objets, nous, quand on quitte le carré des bifins et qu'on repart à pied prendre notre métro, on en voit plusieurs la tête dans les poubelles en train de farfouiller, de voir, de chercher. Il y a des quartiers aussi plus propices que d'autres, alors, pas forcément des quartiers bourgeois. Après, certains bifins sont un peu en lien avec des gardiens d'immeubles, donc ils sont au courant à quel moment sont récupérés... ou les encombrants, enfin à quel moment les poubelles sont sorties. Il y a des jours à poubelles plus intéressants que d'autres. La voisine d'à côté qui connaît la situation de Madame Machin et qui du coup va lui donner les vêtements des enfants et autres. Donc il y a du don, il y a de la récupération dans la rue.
Oui, je crois qu'il faut, on peut tordre le cou à l'idée que les gens ont peut-être de vol, parce qu'il suffit d'aller se promener. Moi, j'ai donc été me promener dimanche, et on se rend quand même rapidement compte que c'est pas des produits volés, et que les gens, alors il y en a peut-être, il y a toujours des exceptions, mais vu l'environnement, vu la misère dans laquelle sont ces gens, je sais pas, moi, rien que de me mettre promener, je pourrais pas expliquer pourquoi, mais. On a de fait, enfin, de manière évidente, pas à faire des produits volés, mais vraiment des produits de récupération, qui sont d'ailleurs c'est pas des produits minables, hein, mais parce qu'il y a souvent ce mythe qui tourne autour, et c'est souvent l'opposition, les riverains, j'imagine, ils se plaignent de ça, ils disent que c'est des produits qui ont été volés, arrachés une heure avant, etc. Mais moi, j'ai pas eu du tout ce sentiment-là quand on côtoie les gens et tout ça. Ouais. C'est vraiment, on est vraiment on s'adresse à des gens qui sont c'est vraiment dans une situation de grande pauvreté. On n'a pas du tout d'agressivité de la part de ces gens. Enfin, si on peut pas distinguer un voleur d'un non-voleur, hein, ce serait trop simple. Mais quand même, c'est pas ce qui transpire, quoi.
Ah ben non, non. Puis bon, après, c'est très facile de les diaboliser, quoi. Je veux dire, voilà, des produits volés, des gens agressifs. Oui, on n'est pas. Alors, il y en a forcément qui tournent, j'imagine, des produits volés après.
Et comment ça se passe, du coup, maintenant au niveau des riverains ? Alors, est-ce que ça s'est un peu, est-ce que ça s'est calmé la situation ? Les riverains, les commerçants, les riverains qui se plaignaient aux alentours ?
Alors, ce qui est... au départ de cette aventure, ce qui est assez beau finalement, c'est que et l'association Sauf qui peut, donc l'association des biffins historiques, ont été rencontrés les riverains qui étaient à l'époque en amicale de locataires et qui finalement se sont constitués en comité de soutien pour effectivement faire en sorte que ce marché existe et qu'il soit encadré. Donc il y a quand même une participation des riverains et des biffins. D'accord. Pour ce même projet. Je pense que les riverains, effectivement, ont peut-être imaginé que ça allait régler tous leurs soucis, c'est-à-dire que jusque-là, il y avait quand même 800 personnes qui vendaient de manière illégale. Donc quand on vend et qu'on est chassé par la police, on ne fait pas le ménage derrière soi. Donc forcément, on laisse les affaires, on laisse les poubelles. Je pense que l'idée qu'un carré soit aussi mis en place, c'était l'idée que ça allait vraiment restreindre et encadrer cette activité. Sauf que il n'y a que 100 places et que nous, on ne peut pas empêcher les gens de s'installer à côté, plus loin et autres. Donc on va dire qu'il y a toujours un peu un souci de débordement, donc les trottoirs sont toujours un petit peu envahis, mais le carré des biffins, on va dire, a mis de la loi dans un espace où il y en avait assez peu, et donc effectivement, il y a aussi une présence policière qui est, alors pas de manière, on va dire, constante, mais qui va peut-être un peu plus s'occuper de ce quartier. Alors, c'est pas la solution, hein, c'est-à-dire que pour délimiter le carré, il faut qu'il y ait à un moment donné dans le carré et puis en dehors du carré. Donc c'est un peu la contrepartie assez difficile pour nous, travailleurs sociaux, de se retrouver à intégrer, à accepter 100 personnes à un moment, et puis le 101e, il ne peut pas, quoi.
D'accord.
Et le 102e non plus.
Bien sûr.
Et là, effectivement, on a beaucoup de biffins qui nous demandent, parce qu'on est le seul espace à proposer ça, et qu'à un moment donné, quand la politique de la porte Montreuil a fait que ça a été verrouillé par une augmentation des forces de l'ordre, que la mairie de Saint-Ouen a barricadé ses trottoirs pour empêcher l'installation de 100 biffins, qu'à Belleville, il y a eu tout un déploiement aussi de forces de l'ordre pour empêcher l'installation des biffins. Nous, en conséquence, c'est ces gens-là qui viennent essayer d'avoir une place chez nous. Donc, sans politique globale, c'est très compliqué. Et je crois qu'on a eu vraiment peur, enfin, il y a 6 mois de ça, parce qu'on était à ce point dans une demande avec 100 personnes autour du bus, limite à le secouer pour avoir une place, et qu'on s'est dit, on est fragilisé là, c'est-à-dire que ces gens-là, on peut pas les prendre en charge. Enfin, je veux dire, on est, on est 4 travailleurs sociaux. Bientôt 5, on peut pas leur dire vous dégagez, quoi. C'est-à-dire 100 personnes qui secouent un bus, ça veut dire descendre leur parler, leur dire écoutez, je comprends votre situation, mais c'est de l'énergie, c'est alors que notre travail, il est sur le carré à gérer l'espace, quoi.
Ouais,
donc à un moment donné, on se retrouve à s'occuper des conséquences des politiques menées par les autres arrondissements, et je crois que il faut qu'à un moment donné, il y ait effectivement une politique globale sur la question et un investissement des uns et des autres, parce que sinon, ça ne va pas tenir longtemps. Puis ça me paraît complètement aberrant, moi, que dans le 18e, c'est autorisé, légal, et puis dans le 19e, non. Enfin, c'est pour une même personne, en fonction de là où elle est, elle n'a pas le même statut, quoi. C'est...
Et y compris au niveau de la majorité municipale à Paris, il y a de très forts débats. Hein. Les élus verts soutenant l'installation de carrés dédiés aux biffins avec de très nettes tensions avec leurs alliés majoritaires. Et dans le 20e, il y a une forte lutte au sein du conseil municipal, hein, par exemple. Bon, au niveau de Saint-Ouen, c'est un peu différent, mais les élus verts, effectivement, soutiennent cette question. Les élus communistes aussi, hein, je crois, soutiennent... clairement, pour les écologistes, c'est une question à la fois sociale et environnementale qui est au cœur de l'écologie politique, hein, puisque là, on voit bien comment ces deux questions environnementales et sociales sont liées. À la fois rendre un service, faire de la récupération, faire du recyclage, et aussi permettre à des gens d'être accompagnés, enfin déjà d'améliorer leurs conditions de vie et de pouvoir aussi bénéficier d'un accompagnement social.
D'accord. On va faire une petite pause musicale, mais avant de l'écouter chanter, j'aimerais bien interroger Monsieur B sur ce problème, puisque on va partager le micro. Alors Monsieur B, c'est un artiste 100% gascon que j'ai croisé par hasard sur un concert qui s'appelle le Lavomatic Tour, je vous invite à regarder un MySpace là-dessus. C'est une initiative d'un invité qu'on a eu ici au mois d'octobre qui s'appelait Eli Guillou, je ne sais pas si vous vous souvenez, et qui rassemble des amis musiciens une fois par mois dans un lavomatique choisi au hasard. et pendant que les gens font leur machine, chaque musicien joue une chanson. C'est très sympa. Donc j'ai croisé Monsieur B qui nous arrive presque fraîchement de Agen, de Pavie exactement, c'est ça?
De Hoche.
De Hoche
en Gascogne. Hoche en Gascogne. Attention, là, tu peux déclencher une guerre. Là,
voilà. Et qui déborde, c'est l'artiste qui déborde de... Bon, j'ai assisté le lendemain à un concert de Monsieur B, c'est quelqu'un qui déborde d'énergie, d'enthousiasme, de bonne humeur. Enfin, c'est...
De francs parler.
Enfin, c'est très agréable, c'est très frais et très agréable. Donc... Mais avant que tu sortes ta guitare, j'avais envie de te demander, parce que toi, t'as débarqué à Paris il y a 6 mois, hein,
Bien,
alors quand tu te retrouves au cœur de ce débat là sur les bifins qui sont alors attends, parle bien dans le micro.
Oui, écoute-moi. Moi franchement, donc ça fait la chanson que je vais vous chanter, la première chanson, ça parle de ça. Venant de la province, il y a quelque chose qui me choque dans Paris, c'est qu'il y a toujours ces boulevards très bien nettoyés, toujours propres, et cette misère donc qui ressort d'autant plus facilement que les trottoirs sont propres, quoi. Et Monsieur B, donc depuis qu'il est à Paris, j'ai déjà joué donc pour l'Intersquat, j'ai joué pour les sans-papiers, au mois de février je vais jouer pour le SAMU social. Donc si l'association Aurore s'ils ont besoin de temps en temps de soutien d'artistes ou de petites choses comme ça, je me ferai un plaisir d'aller jouer pour vous. Je vous laisserai une petite carte, ne vous inquiétez pas, parce que ces gens-là, comme on en parle, les bifins, ils sont pas là par choix. Ces pauvres personnes, les politiques qui sont les premiers à les juger, eux ils ont la vie bien facile. Donc
mais toi, ma question, est-ce que tu as été surpris par cette atmosphère parisienne? Enfin, je sais pas, t'étais peut-être déjà vu, t'es pas né de la dernière pluie, t'étais peut-être déjà monté à Paris, mais est-ce que t'as été surpris? Est-ce que t'es surpris par ce genre de débat?
Non, pas du tout, parce que
à Auch, excuse-moi, on partage le micro, mais à Auch. Il y a des bifins à Auch?
Non, il n'y a pas de bifin, mais il y a la misère. Mais la misère, je te dis, la misère là-bas, dans notre sud-ouest, on a toujours de quoi manger. On ne meurt pas de faim dans le sud-ouest, quoi. Mais là, je te dis, sur Paris, ça se voit. Moi, je te dis, déjà, quand tu sors de Montparnasse et que tu prends le métro, tu les vois déjà, les premiers malheureux dans le métro. Et moi, c'est quelque chose... Ça me fait profondément mal, ça me touche, parce que dans leurs yeux, dans ces personnes-là, tu vois la détresse, ils sont pas là par choix. Donc c'est la société qui les a fabriqués, c'est à nous de les en sortir. Parce que qu'on nous dise pas qu'il n'y a pas d'argent en France, on a du pognon en France. Donc utilisons-le bien.
D'accord, merci. C'est le franc parler.
Le franc parler. Studio, donc.
Alors tu peux sortir ta guitare.
D'acquiescement. Hein.
Tu peux sortir ta guitare, Monsieur B. Pendant ce temps-là, il est déjà prêt, il est formidable. Pendant ce temps-là, je fais ta petite pub. Si vous voulez retrouver les dates de concert, il y en a beaucoup sur Paris de Monsieur B. Que ce soit d'ailleurs à Paris ou en Gascogne. C'est myspace.com/doom32, 32 comme le nom de ton département, le numéro de ton département.
Exactement.
Voilà. Et tu vas nous interpréter quoi comme...
Comme il y avait un sujet sur les bifins, je vais leur dédicacer ma première chanson qui s'appelle Paris Paris. Je vais leur dédicacer ma première chanson. Et puis pour info, Aurore, c'est le prénom de ma fille. Donc, donc voilà. Elle n'a pas bougé. Alors cette chanson, je la dédicace à tous les bifins. Merci à l'association Aurore. Merci à la radio de m'accueillir. Merci à Alex. Et quand tu veux, on se fait une scène. Tu te dégonfles pas. Là, il y a des millions d'auditeurs qui nous écoutent. Spéciale dédicace à tous les bifins qui sont dans Paris, c'est Monsieur B. Quand on m'a dit dans mon village, mon petit domi, tu fais que dalle, prends tes valises, fais tes bagages, va faire un tour à la capitale. Moi je les ai regardés comme ça, je leur ai dit non, mais ça va pas, je suis bien ici, j'ai plein d'amis, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à Paris? De toute manière, j'ai pas eu le choix, je me suis fait foudre de chez moi et je suis parti. L'œil vif et le cœur plein de rage, j'étais bien décidé à conquérir Paris. Paris, Paris, sur tes boulevards bien nettoyés, je vois des gens mendier. Paris, Paris, sur tes boulevards, dans tes cafés, toujours des gens pressés. J'ai arpenté tous tes boulevards de Belleville à Saint-Lazare, me laissant porter au hasard de tes rencontres. Le joli Paris populaire qui s'amusait à l'après-guerre, j'ai dû arriver bien trop tard, ce n'est plus qu'une vieille histoire pour vos grands-pères. Paris,
Paris sur tes boulevards bien nettoyés, je vois des gens mendier. Paris, Paris, dans ton métro, ça sent mauvais, faut même payer pour chier. J'suis remonté dans TGV, j'ai même pas acheté de billets et j'suis rentré. L'œil vif et le cœur plein de rage, Paris n'était plus qu'un mirage et Dieu merci. Paris, Paris, sur tes boulevards bien nettoyés, je vois des gens mendier. Paris, Paris, sur tes boulevards, dans tes cafés, toujours des gens pressés. Et non, c'est pas fini. Merci.
Ouais. Ah, merci, Monsieur B. J'allais t'appeler Dominique, mais les gens savent pas que tu t'appelles Dominique.
On vote pour Monsieur B, je crois.
Ah ouais.
Alors, pour voter pour Monsieur B, appuyez sur 1 de votre poste radio.
Et nous aussi, bon. On vote pour Monsieur B.
Eh ben, merci, la transition, elle va être facile. Fouzia, qu'est-ce que tu...
On trouve même des instruments de musique sur le carré des Bichins. Absolument. Voilà, pour c'est info.
Ah oui.
D'accord.
Des belles guitares.
Alors, attends, parce que...
Par rapport à ce que tu disais sur la clientèle qu'il y avait au Puce, moi, ça fait des années que je viens à Paris, ça fait des années que je viens au Puce. Et au Puce, je ne vais pas forcément acheter dans les stands les plus somptueux. Moi, ça dépend du produit proposé. Et des fois, plutôt que d'aller donner 5 euros dans la rue aux gens, je préfère donner de l'argent à des gens qui se dépensent là. Même pour des petites babioles dont on n'a pas forcément l'utilité. Mais je sais que je suis un client assidu de ce genre d'endroit et j'y vais régulièrement. Donc, tu vois que la clientèle est de tout bourg.
Je te rejoins tout à fait, monsieur Bémé. Moi qui vais aussi, moi je suis né à Paris, donc je vais régulièrement au Puce. Et là, pour aller l'autre jour à la porte de Saint-Ouen, enfin sous le pont de l'avenue de Montmartre, je suis descendu à la porte de Clignancourt.
L'avenue de la porte de Montmartre, pardon.
L'avenue de la porte de Montmartre, j'ai dit autre chose.
De Montmartre.
Je suis descendu à la porte de Clignancourt, donc j'ai marché des puces de Clignancourt aux puces de Saint-Ouen. Et c'est en fait entre les deux que j'ai découvert cet univers que je n'avais jamais vu. Parce que quand j'allais aux puces, soit j'allais aux puces de Saint-Ouen, soit j'alternais avec les puces de Clignancourt selon mon portefeuille, parce qu'on a toujours dit que les puces de Clignancourt étaient un petit peu plus chères que celles de Saint-Ouen. Enfin bon, bref. Mais entre les deux, j'avais jamais fait ce trajet. Et c'est là que finalement on découvre ces gens qui sont vraiment dans la rue et qui sont ces biffins en fait. Moi, j'ai quand même découvert un univers alors que j'allais régulièrement au Puce. C'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est clair. C'est clair, moi.
Oui, c'est un marché, donc on est installé. Voilà, les gens ont le temps de se poser. Ce sont des petits commerçants, on va dire. Donc voilà, ils s'installent et du coup, je pense que on est repéré comme étant aussi un. Voilà, un petit marché avec deux allées pour circuler. C'est...
Alors, j'avais envie de me demander, enfin, c'est, de quelle aide vous avez, vous, pour faire fonctionner cette association? Est-ce que j'ai entendu parler, là, le dimanche dernier, d'aide accordée par le conseil régional, d'aide accordée par la mairie de Paris
Alors, nous, on a une subvention accordée par la mairie de Paris, effectivement.
D'accord.
Qui a donc, pour le premier exercice, pour la première année, était insuffisant, puisqu'en fait, ça coûte plus cher.
D'accord.
Ça coûte plus cher que ce qu'on avait prévu. Donc on va essayer de trouver l'argent qui manque. Et puis par ailleurs, en fait,
le conseil régional a donné un coup de pouce.
Le conseil régional a voté 1 million d'euros pour répondre à la question, enfin au phénomène des biffins sur un.
Et ça, c'était quoi? C'est quoi 1 million d'euros par rapport au budget initial que vous aviez? Ça représente quoi? C'est énorme? C'est très peu? C'est.
Donc notre budget initial, ouais. Il était de 216 000 euros.
D'accord, ok. Donc 1 million d'euros, ça met quand même un peu de...
Alors, le million d'euros, déjà, il n'est pas disponible tout de suite, je pense. Et puis, il n'est pas pour Aurore. Il est pour la région et il est pour essayer de sur ces sites, effectivement, donc où Porte-Montreuil ou Belleville ou autre ou ailleurs, puissent se créer, ou des espaces de vente, des carrés. D'accord. Ou autre chose, hein, d'ailleurs. Hein, c'est pas... Parce que chacun a son avis, nous... Où c'est vrai qu'on sait qu'un espace de vente type carré, ça fonctionne et on a trouvé aujourd'hui un très bon fonctionnement, donc enfin très bon, disons, un fonctionnement opérant, on va dire. Après, voilà, il y a aussi d'autres biffins qui sont pas du tout sur une organisation régie comme ça par un tiers, qui seraient plutôt sur de l'autogestion, sur du placement libre. Voilà, tout le monde n'est pas non plus d'accord avec comment nous on a répondu
au phénomène des bifins. Après, c'est vrai que la mairie, elle, a cadré la chose en disant c'est 100 emplacements délimités sous le pont et pas ailleurs. C'est pas du placement libre. On choisit un tiers, donc on propose pas de l'autogestion par les bifins eux-mêmes. Donc après, c'était aussi la commande de départ. Aurore est sollicitée pour ça et nous, voilà, on travaille avec ce mandat-là, quoi.
D'accord.
Maintenant, c'est pas... il peut y avoir d'autres formes aussi hein, de réponse aux bifins. Donc le million, faut le dépenser et faut convaincre. Mais faut convaincre surtout les maires d'arrondissement de d'accepter qu'on le dépense chez eux.
D'accord. Et c'est pas gagné, c'est ça.
Et c'est pas gagné du tout, non. Non, absolument pas. Bah, faut faire le tour. Hein. Vous allez à métro Belleville, métro Porte de Montreuil, Bagnolet, Porte de Bagnolet.
Et voilà. pourquoi c'est toujours les extrémités, la périphérie de Paris qui est concernée par ce genre de... Parce que pourquoi on ne mettrait pas un quartier des bifins dans le 3e, là où j'habite devant la mairie, là, il y aurait la place, là.
Ah ouais.
Le centre est propre, comme dans ton appartement, oui, mais... quand tu vas aller, tu mets tout ce qu'il y a.
D'accord, belle métaphore de monsieur B, je ne sais pas si j'ai entendu, mais je balais mon appartement en mettant la poussière un peu autour. Mais moi, je ne balais pas comme ça, monsieur.
C'est vrai. Si, mais ça me fait penser à la mobilisation qui avait été faite des bifins devant la mairie du 20e. Et donc, les bifins étaient venus manifester, enfin, déposer un vœu. Mais donc, ils avaient fait une espèce d'étalage symbolique devant la mairie du 20e arrondissement. Et on a vu débarquer une contre-mobilisation, une contre-manifestation de riverains de la Porte de Montreuil avec des banderoles « La misère dans le 16e, la misère dans le 16e ». Alors, pourquoi pas dans le 16e? Tout simplement parce qu'en fait, les bifins, ce sont des vendeurs et qui se mettent là où il y a déjà du commerce, donc plutôt au bout des puces. Et que les clients des bifins, c'est, on va dire, des gens plutôt qui habitent sur la périphérie, effectivement. Enfin, tout ça, c'est un contexte aussi... social où se trouvent les gens qui sont susceptibles d'acheter ça. Donc,
c'est vrai que s'il y avait plus de mixité sociale dans le 3e arrondissement et dans les arrondissements du centre de Paris, tout le monde se porterait aussi beaucoup mieux, je le dis parce que moi aussi j'habite dans le 3e arrondissement. C'est vrai qu'on voit par exemple, il y a un grand succès des brocantes. Il y a eu d'ailleurs, il y a quelque temps, une menace sur, une proposition de légiférer sur l'autorisation que les maires peuvent donner à l'installation de brocantes. Ça a provoqué un tollé chez les élus locaux qui voient bien comment une brocante, d'ailleurs parfois ouverte aux personnes qui résident dans l'arrondissement, c'est aussi une façon de ramener du public, de ramener une activité économique dans son arrondissement. Alors peut-être qu'il faudrait...
Le projet de loi dont tu parles, c'était quoi? Pour supprimer en fait les brocantes?
En fait, vraiment limiter l'autorisation donnée aux brocantes, c'était fait...
Mais dans quel intérêt?
C'était dans la suite d'un certain lobby, notamment des antiquaires, hein, clairement, qui ne voulaient pas voir un marché beaucoup moins encadré s'installer. Et c'est vrai que moi, je trouve que la proposition d'Alexandre, elle est intéressante. Il y a une brocante deux fois par an... dans le 3e arrondissement, il y a beaucoup de place. Hein. C'est un quartier plutôt très, très commerçant, même presque trop commerçant. Parfois, on pourrait se dire, on voudrait plus d'activités économiques différentes du commerce de mode, du commerce très fashion, du marais. Et peut-être qu'il faudrait... Enfin, après, de fait, est-ce que ces populations, est-ce que ces vendeurs, ça les intéresse de venir de manière très temporaire dans un autre quartier? C'est une question qui pourrait se poser, quoi. Du coup, à chaque fois que des brocantes s'ouvrent dans les arrondissements, dédier un espace à ces vendeurs qui sont des vendeurs beaucoup plus informels et pour leur accorder une place aussi.
Oui, ça c'est. Enfin, je pense que ça pourrait être aussi une des solutions. Donc, et faire pareil peut-être avec les marchés qui se tiennent deux ou trois fois par semaine dans tel arrondissement, c'est-à-dire réserver un nombre de places au bout des marchés en question, ça pourrait être aussi une solution, quoi. Donc après, il y a plein de choses à penser, à réfléchir, ouais, bien sûr.
Est-ce qu'on peut, il nous reste pas beaucoup de temps là, un peu moins de 10 minutes, est-ce qu'on peut parler un peu de la réinsertion qui est proposée? Comment ça se passe, un programme de réinsertion pour ces gens-là? Est-ce que c'est un accompagnement? Est-ce que je les aide à construire leur CV? Comment ça se passe pour vous au quotidien? Alors, je crois qu'il y a une de vous trois, Nadine, qui est plus en charge de ce programme.
Qui est complètement en charge de ce programme.
Complètement
en charge
de ce programme.
Donc,
on est vraiment la personne dédiée.
Qui fait un travail remarquable, je dois le dire.
Bravo.
Parce que franchement, là.
Nadine qui a les cheveux rouges, je le dis pour nos auditeurs.
La dame aux cheveux roux, c'est comme ça, elle est repérable comment facilement sur le marché.
Comment ça se passe cette réinsertion, Nadine? Qu'est-ce que concrètement est fait? Et est-ce qu'en un an, il y a des petits résultats, des exemples encourageants?
Oui, oui. Donc en un an, j'ai...
Donnez-nous un peu de l'espoir là, pour la fin de l'émission.
Oui, non, mais il y a plein d'espoir. Hein, oui, plein d'espoir oui. Alors, disons, sur 2010, j'ai rencontré à peu près 200 personnes. Donc les demandes, c'était la demande de l'urgence. Et on arrive dans le bus et j'ai faim, j'ai froid. Voilà, donc bon, on y répond en appelant le 115. Hein, parce qu'aujourd'hui, comme il n'y a plus de politique sociale, il n'y a plus de politique de l'emploi, donc on fait... avec les petites solutions qui nous restent, et c'est fort difficile. Donc, des demandes qui partent de l'urgence, donc pour la satisfaction de besoins primaires, jusqu'à des demandes là, qui demandent un peu plus et qui s'inscrivent dans le temps. Alors, j'ai surtout fait... Aujourd'hui, j'ai une file active de 80 personnes, ce qui est beaucoup. Donc, certains, je les vois assez régulièrement. Donc, là, à ce moment-là, je ne les vois pas dans le bus, parce que le bus, c'est un petit peu une réponse à l'urgence, donc à l'immédiateté de la demande. Pour le reste, je le reçois dans un bureau qu'on a pas très loin du bus rue de Lémenise, en dehors des heures de marché. Donc là, c'est pour surtout du travail d'insertion sociale. Donc c'est quoi? Eh bien, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouverture de droits. Il y a des gens sur le carré par manque d'information, hein, parce que c'est des gens qui ont toujours ils sont au carré des Biffins en situation d'exclusion, mais c'est pas du jour au lendemain que ça s'est produit. Ça s'inscrit tout au long de leur parcours de vie. C'est des gens toujours qui ont été plus ou moins exclus et jamais intégrés, insérés dans notre société. Voilà, hein.
D'accord.
Donc c'est de l'ouverture de droits, c'est des droits à la retraite. Hein. Alors souvent parce que les gens ils savent pas, ou alors, et ça c'est très très important, et on peut s'interroger sur notre système, comment notre système traite les plus vulnérables et les plus fragiles. Et ben moi je pense à un monsieur qui a presque 70 ans, qui a droit à la retraite parce qu'il a travaillé et qui a renoncé à demander à sa retraite. Une ou deux fois il a été à la caisse de retraite, vieillesse maladie, là, avenue de Flandre. Il a été, me dit-il, mal reçu. En tout cas, la conseillère n'a pas pris le temps de parler avec lui. Il a tout laissé tomber. Démissionnaire, l'usure. C'est aussi, vous savez, les méandres de l'administration française. On envoie un papier, puis on n'a pas de réponse. Puis, monsieur, le papier, mais je l'ai déjà envoyé. Il faut le renvoyer parce que c'est...
Il est plus bon.
Voilà, il est plus bon. Ou voilà, ils ont perdu le dossier, etc. Il y a aussi que ce soit la CAF, la Sécurité sociale, il y a un manque de personnel. Donc voilà, les dossiers s'engorgent, il faut du temps. Enfin voilà. C'est complètement tout décalé. Donc beaucoup d'ouvertures de droits, le RSA, la CMU, la retraite. Pour quelques personnes, et là c'est fort difficile, c'est l'accès à l'emploi. Donc beaucoup des Biffins qui sont en capacité de travailler au regard de leur âge et de leur état de santé et de leur désir. Certains émettent quand même le désir de recouvrer une activité professionnelle. Bon, aujourd'hui, le marché de l'emploi va très vite. C'est durci aujourd'hui, même sur des emplois de première qualification. Il faut, je vais caricaturer, mais il faut être beau, grand, jeune, intelligent. Voilà. Et quand on est resté 10 ans, 15 ans sans travailler, aujourd'hui, on n'a plus de crédibilité sur le marché de l'emploi. Voilà.
Est-ce que vous avez des passerelles avec des structures d'insertion par l'activité économique?
Oui, bien sûr. Est-ce que...
Alors, vous répondez à cette question, puis après, j'ai une petite chronique de Sophie qui est cachée dans sa...
Bien évidemment, c'est des personnes qui aujourd'hui, je vous le disais, regardent le durcissement du marché de l'emploi. En tout cas, tout de suite, il faut passer par d'autres étapes, n'y ont pas accès. Donc, je les oriente vers des structures d'insertion par l'activité économique. Mais là aussi, les structures d'insertion par l'activité économique, beaucoup ont fermé, faute de moyens. Et également, aujourd'hui, depuis à peu près des ans, moi, je connais bien parce que j'ai travaillé en chantier d'insertion. Bien, on est dans une culture de résultats, vous le savez. On dit, le mec qui va rester 6 mois, 1 an dans une structure d'insertion, au bout du compte, il faudra aller vers un CDI. Sinon, vous, structure d'insertion, vous aurez moins de pognon. Donc, les structures d'insertion, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent des gens proches de l'emploi. Et les Biffins que nous avons en charge sont quand même très éloignés de l'emploi. D'accord. Et je voudrais simplement terminer sur une note d'espoir. Notre boulot, c'est pas uniquement que ça, et c'est aussi le boulot de tous mes collègues, c'est de leur permettre de reconstruire du lien. Le lien qui est tellement important, notamment avec l'autre. Voilà. Le réconcilier avec l'autre. Et puis, ce lien, ça va leur permettre d'avoir de l'espoir. Et puis, avoir envie de vivre et peut-être de changement aussi. Voilà.
Merci.
On leur apprend aussi à prendre soin d'eux. Parce qu'évidemment, la vie qu'ils ont n'aura pas pris de soin d'eux. Donc, c'est important de leur dire, prenez soin de vous. Voilà.
Voilà.
Merci beaucoup. On va écouter Sophie qui a une petite chronique à nous proposer, le monde de Sophie avec son coup de cœur et.
Moi j'ai deux coups de cœur en fait.
J'ai deux coups de cœur cette semaine de Sophie. On t'écoute.
Je suis généreuse ce soir. Le premier coup de cœur, c'est pour notre musicien. Le deuxième coup de cœur, on a pas mal parlé de.
On t'entend.
Hop, vous m'entendez là? Donc on a pas mal parlé de social dans l'émission et il y a un festival qui commence lundi, le 24, qui se finit le 30 janvier. C'est Bobine Sociale, c'est la 8e édition. Cette année, il s'intéresse aux matières premières, donc tout ce qui est exploitation minière, pétrolière, les plantations de canne à sucre, les laboratoires d'agronomie, pardon. C'est au studio de l'Ermitage dans le 20e, je vous le conseille. Deuxième coup de cœur, c'est un projet, j'avais un peu envie d'en parler. C'est le Conseil Général de l'Isère qui a lancé un projet de covoiturage sur le bateau du Vercors. L'idée, c'est de mettre en relation passagers, conducteurs par un système d'inscription, alors ou par téléphone mobile, ou par répondeur téléphonique, ou par SMS. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin forcément d'être en ligne. Et le projet a été initié du 16 septembre au 26 novembre. Il y a eu 12 mises en relation par jour, ce qui est quand même pas mal sur un plateau comme le plateau du Vercors. Et maintenant, ça va s'étendre sur la vallée du Grésivaudan, qui est aussi relativement enclavée. Voilà, c'était mon coup de cœur, Alexandre. Je te laisse la parole pour terminer l'émission.
Merci beaucoup Sophie. Merci, alors on va se quitter très vite, il nous reste une minute. Merci beaucoup à nos invités, donc merci à l'association Aurore, représentée par Pascal, Fouzia et Nadine. Merci à notre invité musical Dominique. D'habitude on termine en écoutant une chanson de Dominique, mais Dominique n'a pas appelé son CD, on s'est mal compris, donc on l'écoutera la prochaine fois, il n'y a pas de problème. Merci à Laurence, notre nouvelle collaboratrice, qu'on retrouvera j'espère le mois prochain. Merci à la technique, à Delphine, à Sophie. Je suis Alexandre, on écoute pour terminer une reprise de Renaud faite par un groupe qui s'appelait L'Année du Rat. Ah, j'ai oublié de dire, je peux dire encore un petit mot. On peut réécouter l'émission demain matin entre 11h et... C'est pas la bonne, c'est la 4, l'émission. La chanson. On peut réécouter, l'émission est rediffusée demain, vendredi, de 11h à 12h. On peut réécouter l'émission sur le web. www.zoom-ecologie.net quand on aura arrivé à poster les émissions sur on n'a pas trop bien compris ça, comment ça marche. On peut nous envoyer un message par mail zoomecolo3@gmail.com. On se retrouve le troisième jeudi du mois de février, ce sera le jeudi 17 février, où on va parler sans doute des déchets, mais ça va être passionnant, je vous assure. Merci à nos invités.